Aujourd'hui, à Rencontre spirituelle, il sera question d'un particulier de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, en fait de Chicoutimi. L'abbé Elzéar Delamarre, un bon prêtre québécois, un saint, je crois, qui est mort en tous les cas comme un saint, selon ce qu'on nous dit des gens qui ont été témoins de sa vie. Il est mort en 1925. Et il a fondé les Antoniennes de Marie, qui est une communauté fort connue dans la région là-bas. Et c'était un homme qui a donné ce nom de Antonienne de Marie parce qu'il avait une profonde dévotion à la grandeur de saint Antoine de Padoue, qui est un très grand saint, originaire du Portugal. Je vous ai déjà raconté sa vie. C'est vraiment un très très grand saint que saint Antoine, ce grand franciscain. Et on en a fait, quoi, des statues de plâtre, rose bonbon et tout ça. C'est un peu triste parce que c'est vraiment un homme d'envergure et un homme humble et qui donnait au Christ totalement, hein, et qui est un grand prédicateur. Et puis, il les a appelés comme ça Antonienne de Marie à cause, évidemment, de son immense dévotion à la Très Sainte Vierge. C'est aussi, je voulais le dire en passant, la fête de Saint Anselme aujourd'hui. Je vous en ai déjà parlé. Saint Anselme, qui a été archevêque de Canterbury, qui est docteur de l'Église, mais savez-vous qu'il n'a jamais été vraiment canonisé? Je pense que je vous l'avais déjà signalé. Il était né en Italie, en Lombardie, et puis il est devenu moine, bénédictin, au monastère du Bec. On a entendu ce matin, M. Barbet nous a fait jouer des chants des moines du monastère du Bec et loin, en Normandie. Bien, lui, il est entré là en 1060, dans ce même monastère où il y a toujours des gens qui chantent. Il en est devenu l'abbé, et puis il était associé avec le fameux intellectuel, le moine Lanfranc, qui l'a amené, saint Anselme, en Angleterre, et puis il est devenu donc archevêque de Canterbury en Angleterre, saint Anselme. Il a quitté son abbatiat, n'est-ce pas? Puis, ce que je voulais surtout vous dire, c'est que il a été un homme qui a vraiment lutté contre le mal, qui a été, on pourrait dire, un apôtre auprès des pauvres. Et un des grands opposants à l'esclavage. Il a même obtenu qu'une résolution soit passée lors du concile de 1107, dans lequel il était dit que le fait de vendre des êtres humains, comme si c'était du bétail, c'était prohibé et passible d'excommunication. Oui, en 1107. Les gens pensent toujours que c'est récent, la lutte contre l'esclavage. Eh bien voilà, c'est la fête de saint Anselme aujourd'hui, qui est mort en 1109, 2 ans après vous avoir passé cette résolution mémorable. Il est fêté le 21 avril, donc aujourd'hui c'est sa fête. Mais c'est aussi l'anniversaire aujourd'hui du décès de cet abbé Elzéar Delamarre, qui est mort en 1925 à l'âge de 71 ans. Elzéar Delamarre a connu le diocèse de Chicoutimi au temps même de sa fondation, on pourrait dire, avec Mgr Dominique Racine. Il a fondé, disons, entre 1878 et 1888. Il a aussi travaillé avec Mgr Louis-Nazaire Bégin, qui est devenu cardinal Bégin, hein, qui a été évêque de Chicoutimi de 88 à 92, et Mgr Michel-Thomas Labrecque, lui, de 92 à 1925, qui était évêque longtemps, ou en somme jusqu'à la mort de l'abbé Delamarre. À cette époque, la région du Saguenay, c'était une région toute jeune et plutôt pauvre, on peut imaginer. C'était une organisation qui s'est faite de façon assez simple au début. Chicoutimi a subi une épreuve épouvantable. Saviez-vous, moi j'ignorais ça, c'est en lisant les textes, j'étais surpris. Une épreuve épouvantable en 1912. C'est arrivé un incendie effrayant, épouvantable, qui a détruit le séminaire, la cathédrale, puis une grande partie de la ville. 1912, Chicoutimi. Tous ces événements, évidemment, ont influé sur la vocation sacerdotale, puis sur le sens apostolique de cet abbé Elzéar Delamarre. Évidemment, il était comme tout le monde, il était le produit de son époque. de son milieu humain. Il se doit de créer des œuvres qui s'imposent, qui répondent, selon lui, à des besoins urgents, parce qu'il y en a à Chicoutimi à ce moment-là. En d'autres termes, comme tous les fondateurs, ce sont les circonstances qui le poussent dans sa voie. Et l'histoire nous apprend qu'il a toujours été ainsi. Il s'est laissé pousser par les circonstances, comme si Dieu le guidait par la main, comme je disais hier. Il n'y aurait pas eu de saint François d'Assise sans les misères spirituelles d'Église du XIIe siècle. Il n'y aurait pas eu de saint Dominique sans les hérésies des Albigeois dans le sud de la France. On peut dire qu'il n'y aurait pas eu saint Ignace de Loyola sans les guerres de Navarre. J'en ai parlé hier, hein, le boulet qu'il a reçu sur sa jambe et tout ça, le siège de Pampelune. On pourrait dire qu'il n'y aurait pas eu de Charles de Foucault sans les expéditions militaires françaises en Afrique du Nord. Mais il n'y aurait pas eu d'Elzéar de Lamar sans une Église catholique en plein rayonnement spirituel puis un Saguenay en plein essor d'organisation. Ce sont les événements. Actuellement, les événements doivent susciter probablement dans le cœur de jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans, peut-être on ne les connaît pas encore, des choses extraordinaires qui surgiront après notre mort, les gens de mon âge. On verra ça du fond du purgatoire. L'abbé Elzéar de Lamar, mais Elzéar de Lamar, quoi, est né en 1854 dans une famille très simple, très humble. C'était dans une petite paroisse qui n'avait l'air de rien du tout à l'époque, Sainte-Brigitte de Laval, au pas à Laval ici, non, c'était à l'écart de la côte de Beaupré, ça, à l'autre bout du Québec, dans les montagnes. Les registres civils ne mentionnent même pas sa famille, parmi les fermiers de la place, tellement ils sont simples et pauvres. Les de Lamar sont donc sans propriété, d'aucune sorte. En 1858, il a 4 ans, sa famille quitte l'endroit. Ils émigrent à Héberville, au lac Saint-Jean. Et la paroisse, là, n'a qu'un an d'existence. Elle est encore au stade de colonisation. Alors on s'y installe, sur une petite ferme, bien pauvrement. Et ce n'est qu'à l'âge de 10 ou 11 ans que le jeune Elzéar de Lamar va pouvoir fréquenter l'école régulière. C'est curieux, hein? 10 ou 11, hein, commence tard. Mais il y a du talent. Il y a des bonnes dispositions qui sont remarquées. Alors un bienfaiteur s'intéresse à lui. Ça existe constamment dans notre histoire, ça. Des bienfaiteurs qui s'occupent des jeunes. Et ce bienfaiteur le confie d'abord au professeur Elzéar Ouellet, un autre Elzéar, qui lui donne gratuitement des cours pendant 1 an. Mais qui est donc ce bienfaiteur, on peut se le demander. Vous avez deviné, un prêtre, évidemment. Ce bienfaiteur, c'est le curé de sa paroisse, l'abbé Jean-Baptiste Villeneuve, qui était curé 10 ans, de 1861 à 71. Il lui paie ensuite ses études classiques au petit séminaire de Québec, comme ont fait tant de prêtres. Saviez-vous ça? Tout ce qu'on doit aux particuliers ici, on ne le dit pas assez. On parle des jésuites, on parle des autres, et aussi on leur doit beaucoup. Mais les prêtres séculiers, comme on leur doit beaucoup. L'abbé de Lamar va dire de cet abbé Villeneuve, en février 1905, il a alors une cinquantaine d'années, il fit construire plusieurs jeunes gens, dont quelques-uns sont devenus prêtres, entre autres, auteur de cet article qui lui conservera une reconnaissance éternelle. Un bon et saint curé que ce curé Villeneuve. La jeune génération, continue-t-il, ne saurait se faire une idée des misères et des difficultés de toutes sortes qu'attendaient les prêtres missionnaires chargés de la desserte des premières paroisses de cette région du lac Saint-Jean. Ce texte date de 1905. Alors à cette époque, de 1868, là, alors qu'il n'a que 14 ans, ni le séminaire, ni le diocèse de Chicoutimi ne sont fondés. Tout relève de Québec à ce moment-là. Cet étudiant, Elzéar de Lamar, est visiblement en retard dans sa scolarité. À 14 ans, il a déjà grandi considérablement. Ça arrive, hein, il est robuste comme un homme. On le case parmi les tout-petits pour 2 années préparatoires aux cours classiques. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? On se moque de lui. Ses jeunes confrères se moquent de lui, à cause de ce fait qu'il est très grand et l'air d'un adulte. qu'à cause de son accoutrement misérable, parce qu'il vient de milieux pauvres. Comme les enfants sont cruels. Souvent, on dit, ah, les enfants, si tout le monde avait une âme d'enfant, ça dépend de l'âme de quel enfant, hein. Et rien n'ébranle son courage à Elzéar de la Mare. Rien n'ébranle sa patience. Rien n'ébranle son humilité. Et ça tourne finalement son avantage. Il y a un de ses confrères qui va rendre plus tard ce beau témoignage très significatif. Il l'appelle l'habitant. C'est pas méchant. C'est une façon de parler à l'époque. On disait ça quand j'étais jeune encore, l'habitant. Puis, on allait voir l'habitant. Qui habitait quoi? Une terre. Et c'était plutôt noble. Il n'y avait pas de mépris là-dedans. Donc, l'habitant, écrit-il, d'Héberville, gagna vite la sympathie et l'amitié de ses camarades de classe. Son calme, sa courtoisie naturelle et son désir d'apprendre lui ont concilié tous les cœurs. C'est seulement 10 ans plus tard, en 1878, à l'âge de 24 ans, qu'Elzéar de la Mare termine son cours. Mais il remporte toutes sortes de succès. Alors il est bachelier. Bachelier ça, B.A. comme on dit. Alors si, disons qu'il est jeune encore malgré ses 24 ans, il rentre aussitôt au grand séminaire de Québec pour devenir prêtre séculier. Prêtre diocésain, quoi. Simple prêtre. Les prêtres comme ceux que Jésus a fondés. je trouve, quelqu'un m'avait déjà dit ça, je ne suis pas jésuite, je ne suis pas dominicain, j'appartiens au grand ordre que Jésus a fondé. C'est des taquineries, hein? Ses études théologiques, donc, ont duré 5 longues années au lieu de 4, pour cause de santé. Et puis, il faut dire qu'il était un peu faible des poumons. Et déjà, ça lui arrive d'être malade, hein? La maladie le visite, sérieusement. Puis, en même temps, il fait de l'enseignement au petit séminaire. Il y a un confrère éminent, le futur Monseigneur Louis-Adolphe Paquet, qui a laissé des ouvrages, hein, va écrire à son sujet en 1945, « L'abbé de la Mare était une âme d'élite, sensible aux beautés de la nature, plus sensible aux charmes et aux séductions de la grâce, toutefois, et capable d'entreprises généreuses, incapable de viser basse et jalouse, modeste dans le succès, accueillant, délicat. » Et Monseigneur Paquet continue, « Le bonheur de ses amis faisait le sien. » C'est beau, ça, hein? « Le bonheur de ses amis faisait le sien. » Pas de jalousie chez lui. Pas de calomnie, de médisance, de rien de tout ça. « Je garde bien vivant, dit Monseigneur Paquet, en mon esprit, la mémoire de ce confrère si richement pourvu de toutes les qualités qui font le prêtre instruit, vertueux, l'homme d'action voué aux meilleures œuvres de bienfaisance et de zèle. La divine providence avait doué ce prêtre canadien d'une infinité de talents remarquables. Il écrivait, écoutez bien, avec une force mesurée et une classique élégance. Ça arrivait souvent, la formation dans nos écoles, même à cette époque, nous permettait d'écrire un français, parfois, comme ça, là, élégant, classique, très valable. On a oublié, hein, tout ça, tout ce dévouement de nos instituteurs, de nos professeurs, de cet enseignement, à tout le moins pour ce qui est de la langue écrite. Alors, nous allons revenir à l'abbé. Elzéar de la Mare, un ecclésiastique professeur, qui, depuis sa prise de soutane, relève du tout nouveau diocèse de Chicoutimi, fondé l'année même de son entrée au grand séminaire. Alors, rien de surprenant que son évêque, Monseigneur Dominique Racine, procède lui-même à son ordination, non ordination comme prêtre, son ordination sacerdotale, dans l'église de Notre-Dame d'Héberville, où ses parents, vous vous souvenez, sont allés s'établir quand il avait 4 ans. C'était le 29 juin 1883. Pourquoi le 29 juin, hein? Vous vous souvenez, c'était la fête à l'époque de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et ça l'est toujours, d'ailleurs. Le nouveau prêtre a près de 30 ans. C'était Presque une vocation tardive pour l'époque, parce que les prêtres étaient subordonnés à 24 ans et avec beaucoup de, souvent de permission à 23 ans. L'évêque lui assigne comme première fonction le poste de vicaire d'une paroisse nombreuse à La Malbaie. C'est très beau. Il s'y dévoue pendant 4 ans, de 1883 à 1887, mais il devient malade pour de bon. Il est condamné à s'expatrier dans un climat moins humide, plus clément. Il est obligé de changer de pays. Il se dirige vers Jacksonville, au nord de la Floride. Mais sa pension là-bas lui coûte très cher. Heureusement, il réussit à se débrouiller. Il offre ses services comme vicaire au curé de l'endroit. Et quand la maladie, dans son cas, semble sérieux, il se confie à Dieu. Il écrit « Ces derniers mois, mes espérances, d'après l'avis des médecins, étaient bornées. » Ça veut dire bornées, limitées. C'est une lettre qui écrit à Sœur Gabrielle. Il lui écrit souvent, Sœur Gabrielle. Il se remet sur pied finalement, puis réintègre son diocèse à l'été de 88. L'année suivante, quoi. Monseigneur Racine vient de mourir. Alors, l'administrateur apostolique, l'administrateur qui a été désigné par le Vatican, le Saint-Siège, confie à l'abbé de Lamarre le poste de curé ou de desservant, si vous voulez, aux éboulements. Mais le nouvel évêque, Monseigneur Bégin, là, qui va devenir le cardinal Bégin, et qui est avant tout un savant théologien, docteur de l'université grégorienne des Jésuites, ou un animateur de Radio Ville-Marie, Luc Faneuf, fait des études présentement en spiritualité, bien, Monseigneur Bégin veut meubler son grand séminaire de prêtres compétents. Et Monseigneur Lapointe écrit en 1925, son premier choix tombe sur l'abbé de Lamarre, qu'il connaît de longue date. À ses frais, il l'envoie aux études à Rome. À ses frais. À l'été de 1889, l'abbé de Lamarre s'embarque pour la ville éternelle. Il y passe 2 ans et il conquiert le titre de docteur. C'est vite fait, 2 ans, grand Dieu. Pendant ce stage se situe une rencontre avec le pape Léon XIII. Et c'est assez étonnant parce que l'abbé Elzéar de Lamarre raconte ce qui s'est passé. Et c'est extraordinaire. Il dit, il écrit à l'audience, quand le pape arriva à moi, je lui dis, je suis un petit prêtre canadien. Il me regarda un peu surpris et me dit, vous, plus tard, vous ferez quelque chose de très grand. C'est curieux, c'est l'arrière-nièce et secrétaire de l'abbé de Lamarre qui écrit ça, Alice Vézina. C'est encore lors de son séjour à Rome qu'en 1891, il fait à Padoue, vous voyez son intérêt pour Saint-Antoine de Padoue qui commence, puis il va fonder les Antoniennes en l'honneur de Saint-Antoine de Padoue. Il fait à Padoue son premier pèlerinage, qui le marque pour la vie. Ça le lie d'amitié avec le chanoine Antoine Marie Locatelli, qui est le grand propagandiste italien de la dévotion à Saint-Antoine à l'époque. De retour à Chicoutimi en 1891, on l'attache au personnel du séminaire. Là, il cumule plusieurs fonctions. C'est un homme brillant. Il travaille au-dedans du séminaire comme au-dehors. D'abord, il va enseigner la théologie au grand séminaire pendant 18 ans. Il enseigne la théologie pendant 18 ans. De 1891 à 94, donc, il sera en même temps directeur des élèves, tout en donnant les cours de religion, puis en étant responsable de la congrégation de la Sainte Vierge, de la Société Saint-Dominique, puis du théâtre. Il s'occupe beaucoup de théâtre. Avec l'abbé Victor Alphonse Huard, qui a laissé sa marque aussi, il fonde la revue L'Oiseau-Mouche, une revue collégiale, pour aider les élèves à s'exprimer puis à écrire. Puis il y fournit quantité d'articles. Il signe ça, à la façon de l'époque, Livius, un nom bien latin. Il s'ajoute en même temps, de 1892 à 94, l'aumônerie de l'hôpital. Puis les chapelains des religieuses. Il ne doit pas avoir grand temps pour dormir. En ce lieu, donc, il établit le centre de dévotion à Saint-Antoine. c'est-à-dire l'œuvre du pain des pauvres. Puis ils fondent un orphelinat pour des filles en 1894, juste 3-4 ans après son retour de Rome. En 1895, ils fondent la fameuse revue Le Messager de Saint-Antoine, qui existe toujours. Et qui est beaucoup plus intéressante qu'on pense. Ça fait drôle, les gens disent « Messager de Saint-Antoine, Messager de Saint-Antoine ». Il y a de très bons articles, j'en lis moi parfois, qui me surprennent. Et il prend encore un an de repos forcé aux États-Unis, dans un endroit qui est très agréable, au couvent de Sag Harbor, c'est à Long Island, où il remplit la fonction d'aumônier des religieuses. L'an 1898, avec l'abbé Eugène Lapointe, qui écrit à son sujet quand il est mort, il fonde le journal La Défense. La Défense, qui, comme son nom l'indique, se donne pour but de défendre les intérêts religieux puis les intérêts nationalistes et politiques des Canadiens français. Ce cofondateur de La Défense disait de son compagnon d'armes, c'est l'abbé Lapointe qui écrit, l'abbé Elzéar de Lamarre avait un jugement solide, une imagination vive, une grande sensibilité, un équilibre et des facultés admirablement développées par l'étude. Il avait un esprit vif et inventif, plein de ressources. Et sa grande caractéristique, c'était la ténacité. La ténacité. Pas démissionner, toujours agir, vivre de la foi qu'il soutient, puis de la charité aussi. De 1899 à 1905, il est supérieur du séminaire. Et ses services au grand séminaire sont extrêmement importants pendant les 6 ans. Si les circonstances, écrit-on, si l'abondance de ses talents ne l'avait pas attiré à se reproduire ailleurs, il aurait pu vivre et mourir au service des jeunes qu'il a aimés de tout son cœur. Il avait toutes les qualités pour devenir un pilier de séminaire. La compétence, un jugement sûr, une grande souplesse d'adaptation aux différents tempéraments, puis un sens inné d'administrateur. Alors, au début de 1900, il a, disons, 45 ans, l'abbé de Lamarre fait un second voyage en Europe qui consiste surtout en un pèlerinage vers les grands centres de dévotion à Saint-Antoine. Il s'arrête longuement à Padoue, dans le nord de l'Italie, près de Venise, où on l'accueille chaleureusement, puis retrouve à l'été, pour ne plus se relever, son bon ami Don Locatelli, là, le vénérable fondateur et directeur de cette association universelle de ceux qui aiment Antoine de Padoue, qui le prient, qui le vénèrent, comme un des nombreux grands reflets qu'il y a dans l'Église de la grande sainteté de Jésus-Christ. L'abbé Elzéar de Lamarre, qui est mort en 1929, et qui en 1904 a fondé la communauté des sœurs de Saint-Antoine de Padoue, une communauté importante dans cette région. Il recrute les premières vocations, il organise leur vie religieuse à titre de confesseur, puis de père spirituel. Il rédige leur constitution, qu'il leur présentera finalement en 1907. À ce moment-là, il est supérieur du grand séminaire. Tout en s'occupant intensément de cette importante fondation, l'abbé de Lamarre acquiert en 1906, à ce moment-là, un terrain au lac Bouchette. C'est lui qui a fondé l'ermitage du lac Bouchette, qui est très réputé dans tout le Québec, comme lieu de retraite, comme lieu de méditation, de reprise de conscience, au creux de sa vie. Et c'est sous la direction des Capucins aujourd'hui. Capucins qui sont de l'Esprit Saint-François, comme chacun sait, j'espère. Alors donc, il acquiert en 1906 ce terrain au lac Bouchette. Il y commence en 1907 des constructions, puis il dira plus tard aux religieuses, « Lorsqu'en 1907, je construisis une résidence privée puis une chapelle dédiée à Saint-Antoine, j'étais loin de penser que ce petit coin de terre deviendrait un lieu célèbre de pèlerinage. La Sainte Vierge et Saint-Antoine m'ont sans cesse poussé, comme malgré moi, à faire ce que j'ai fait. » Ou plutôt, ce sont eux qui ont tout fait. Alors, en 1909, c'est le moment crucial de la vie de l'abbé Elzéard de Lamarre. Il a 55 ans. On l'oblige à quitter brusquement le séminaire. Et ce qui est plus tragique, c'est qu'on l'écarte définitivement de ses sœurs antoniennes qu'il a fondées. Et ce sont de ses confrères qui doivent s'en occuper, un peu comme si c'était eux qui avaient fondé finalement. Alors l'abbé de Lamarre va prendre résidence, lui, à l'Hôtel Dieu pour le reste de ses jours. C'est-à-dire qu'il occupe cet endroit, une chambre pendant l'hiver à l'Hôtel Dieu, mais il passe la saison de l'été au lac Bouchette qu'il a fondé. Il dirige, il anime, puis il développe ses œuvres au lac Bouchette. En 1912, l'ermitage Sant'Antonio, c'est-à-dire Saint-Antoine, Sant'Antonio, du lac Bouchette, devient soudainement sanctuaire marial. Et ça commence par la découverte de la grotte dans la montagne, à quelques arpentes de la chapelle. Il est écrit dans le Messager, 4 ans après sa mort, ce qui suit: sans tarder, Monsieur de Lamarre dépose une statue de la Sainte Vierge dans une niche qu'il a aménagée dans la paroi de la grotte, et chaque jour il vient y prier. Ceux qui aiment bien Saint Antoine le suivent. Quelques jours après l'installation de la statue, un homme est guéri instantanément du cancer. La nouvelle se propage dans les paroisses, comme le feu dans les broussailles, et cette grotte que l'abbé avait adaptée pour satisfaire à sa piété personnelle devient bientôt le célèbre sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes du lac Bouchette. En 1916, un événement marquant se produit au lac Bouchette. C'est Mgr Labrec, l'évêque du diocèse, qui vient lui-même bénir solennellement la grotte. Dans le messager de l'année suivante, messager de Saint-François, de Saint-Antoine plutôt, de décembre 1917, on peut lire ceci: un bateau de la compagnie de pulpe d'Ouiachouan avait dû faire 2 fois la traversée du lac pour amener les pèlerins, sans compter ceux qui étaient venus par terre, à pied ou en voiture. C'est pas comme aujourd'hui, les routes sont pas comme aujourd'hui, puis les autos, ils n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, etc. On se met en procession, dit le texte, au chant des litanies de la Sainte Vierge, et le clergé en surplis précède les fidèles. Mgr Labrec bénit l'endroit, les statues et la petite église. Le père Dagneau prend ensuite la parole. Ayant loué la religieuse et artistique idée de Monsieur de Lamarre, il montre ce lieu retiré et pittoresque, désormais consacré à Marie Immaculée, comme un centre de beauté, de prière, de consolation et de faveur. Et jusqu'à sa mort, à l'âge de 71 ans, M. l'abbé Elzéard de Lamarre va animer les lieux par sa présence et son dévouement. On peut lire, dans un texte paru en 1972, « Combien d'entre vous... » C'est Mgr Eugène Lapointe, c'est qui écrit ça. « Combien d'entre vous n'ont-ils pas vu ce prêtre frêle, délicat, se levant de grand matin pour accueillir des pèlerins, venus souvent de très loin, les confesser, leur donner la Sainte Communion, entendre durant des heures leurs confidences, écouter leurs prières et les leur distribuer, souvent durant tout le jour, avec tant de bonté et d'onction, la bonne parole qui console, relève et réconforte. » Au fond, ce petit texte peut sembler simple. Je trouve ça une description très profonde de ce que c'est qu'un prêtre. Alors je le relis. Écoutez bien, c'est ça un prêtre. Ce prêtre, il dit qu'il est frêle. Tous les prêtres ne sont pas frêles. C'est que celui était malade, les poumons, etc. Ce prêtre frêle, délicat, se levant de grand matin pour accueillir des pèlerins, venus souvent de très loin, les confesser, leur donner la Sainte Communion, entendre durant des heures leurs confidences, écouter leurs prières et leur distribuer souvent durant tout le jour, avec tant de bonté et d'onction, la bonne parole qui console, relève et réconforte. savez, la liste des réalisations de M. l'abbé Elzéar de Lamar se termine avec la fondation des retraites fermées dans le diocèse de Chicoutimi en 1924. Il invite les laïcs à le suivre au lac Bouchette. On écrit en 1925 d'ailleurs, « Les retraites se succéderont pendant toute la belle saison. Nous réservons 20 chambres à l'hôtellerie pour chaque retraite. » Les 20 chambres ont été remplies durant tout l'été. Et l'année suivante, un mois avant de mourir, il annonce que l'expérience est heureuse et qu'il faut la répéter. Il écrit « Sa grandeur, Monseigneur, l'évêque, a décidé que les retraites seront cette année encore données à l'ermitage. » Alors c'est les pères jésuites qui sont chargés de tout ça. C'est grâce à lui que finalement les jésuites construisent en 1927, 2 ans après sa mort, la maison de retraite de Valracine à Chicoutimi. Le 20 avril 1925, au cours de l'après-midi, Monseigneur Labrec, inquiet, vient voir M. de Lamar à l'Hôtel Dieu. Il lui annonce la grande nouvelle. C'est la veille de sa mort. C'est réglé, les pères capucins vont prendre votre succession au lac Bouchette après votre mort. Vers 10 heures du soir, une douleur au cœur le saisit et l'oblige à se mettre au lit. À 11 heures, il appelle sa nièce, Alice Vézina, l'une de ses secrétaires, qui l'hébergeait à l'hôpital. Elle le soigne de son mieux et le quitte. À 2 heures du matin, il appelle de nouveau. « Je ne puis dormir, » dit-il. « Va, s'il te plaît, chercher les autres. Je me sens bien mal. Je vais mourir. » Et il ajoute, « Notre-Dame de Lourdes, Saint-Antoine, venez à mon secours. » Et ce sont là ses dernières paroles. On lui donne ce qu'on appelait l'extrême-onction, le sacrement des malades. Et à 4h30, il expire doucement. Il était âgé de près de 71 ans, quoi, 70 ans et 8 mois. Il était prêtre depuis 40 ans. Son corps a été temporairement déposé dans un caveau du cimetière de Chicoutimi. Puis il a été transporté quelques mois plus tard, 2 mois plus tard, au lac Bouchette. Il est enterré près de l'hôtel, dans la minuscule chapelle de l'Ermitage. Cependant, dans ses dernières volontés, on écrit, il avait spécifié qu'il désirait être enterré simplement devant la grotte, en pleine terre. Écoutez bien ses paroles, afin d'être piétiné par les pèlerins, comme il le méritait à cause de ses péchés. Les pèlerins ne manquent pas de venir prier près de son tombeau, qui est recouvert d'une pierre sur laquelle on a gravé une épitaphe qui résume sa vie. Simplement, les dates de naissance et de mort. Très simplement. C'était un homme simple. Quand le mot spiritualité est appliqué à une personne, ça signifie, au fond, le portrait intime de son âme, hein? Ce qu'on peut percevoir de sa physionomie spirituelle. Ça s'appelle aussi peut-être l'espèce de technique de la montée de cette âme vers la perfection. Quand on parle de la spiritualité, comme ça, on parle peut-être de l'armature ou de la structure de sa vie intérieure, sa voie mystique personnelle. Sa façon propre de se sanctifier, la spiritualité de l'abbé Elzéar de Lamar. Et en soi, toute méthode de sanctification est uniforme, puisqu'elle consiste nécessairement dans la pratique des grandes vertus théologales, la foi, la charité, l'espérance, les vertus morales aussi que l'on sait. Mais dans le monde surnaturel, il en est comme dans le monde physique, hein, les espèces se multiplient, se foisonnent par milliards, hein, c'est varié, c'est divers, c'est différent. C'est ce qui constitue la beauté, la richesse et l'équilibre de la création. Et lorsque Jésus disait « Il y a une multitude de demeures dans la maison de mon Père », on trouve ça au chapitre 14 de l'Évangile de Saint-Jean, Mais Jésus nous révélait qu'au ciel, il y a place pour tout le monde, et tout genre d'élus possibles, de toute nation, tribu, peuple et langue, hein, comme c'est dit dans l'Apocalypse. Or, la spiritualité de M. Delamarre est à la fois celle qu'il a lui-même vécue et celle qu'il a inculquée à son entourage immédiat, ses intimes, à la communauté religieuse qu'il a fondée, puis aux 50 000 lecteurs assidus de son messager de Saint-Antoine, sa revue, à ses innombrables correspondants, car il répondait à toutes les lettres, à ses pénitents réguliers, des gens qui faisaient diriger leur âme par lui, comme à toutes les personnes qui venaient occasionnellement et qu'il a rencontrées au cours de son ministère extrêmement fécond et laborieux. On peut en signaler tout de suite les caractères particuliers, puis les traits distinctifs. Il y avait l'oraison puis l'action. D'abord, sa spiritualité, c'est une spiritualité de vie mixte, contemplative et active. Il incarne à la fois l'idéal, on peut dire spirituel, de Marie, puis celui de Martin, les deux amis de Jésus à Béthanie. Hein? Marie qui préfère écouter, Marthe qui préfère préparer le repas. Et il unit intensément puis continuellement la prière. Puis le travail, comme un moine. Hein? Il commence par faire une large place à l'oraison. Il la situe comme, pour lui, une chose essentielle et primordiale. C'est la base de tout son élan vers les sommets de la vie intérieure et de tout son engagement dans l'action. D'ailleurs, il le dit dans ses directives aux sœurs de sa communauté. Il appelle l'oraison une manne précieuse que le Seigneur accorde aux âmes fidèles pour conserver et perfectionner en elle la vie religieuse, la source pure, ouverte par notre Seigneur, pour rafraîchir les âmes travaillées par la soif des choses éternelles. Une rosée céleste, ajoute-t-il, qui fait germer et croître dans les cœurs toutes sortes de vertus, un flambeau divin qui éclaire les pas des pèlerins de la terre et les dirige sûrement vers le ciel. Un des plus grands moyens de sanctification que leur offre la vie religieuse, c'est ce qu'il écrit à ses sœurs. Alors adorer Dieu, l'aimer dans la contemplation, cela, lui, selon lui, ça ne suffit pas. Il faut en plus le servir. Et le glorifier par nos œuvres, c'est-à-dire par le travail de nos mains. Notre travail fait partie intégrante de notre sanctification. Parce que ça réalise dans le concret le don total, puis l'oubli de notre personne. C'est son enseignement. À côté de l'autel de la prière, ce qu'on peut dire, il y a le travail qui est l'autel de notre immolation, dit-il. Aux âmes pieuses qu'il dirige dans les voies parfaites, l'abbé Elzéar de la Mare ne prescrit aucune autre forme de sacrifice. Il considère que la simple fidélité assidue à ce qu'on a à faire, ça inclut tous les sacrifices. Ça dépasse tous les sacrifices. Ce qu'on appelait autrefois le devoir d'État. Et au chapitre des mortifications, il écrit « La vie constamment appliquée au travail sera pour elle, pour les sœurs, une mortification continuelle. Elles ne peuvent faire de pénitence plus agréable à Dieu et plus méritoire. » Les sœurs ne sont pas astreintes à des austérités particulières. Leurs travaux manuels et leurs occupations journalières tiennent lieu de pénitence corporelle. Bon, c'est une spiritualité qui s'applique à toutes les mères de famille, à toutes les secrétaires, à toutes les infirmières, à tout le monde, de haut en bas, de droite à gauche, partout. La spiritualité de l'abbé de la Mare fait surtout penser à celle de Saint-Vincent de Paul, quoi. C'est un des plus parfaits modèles de vie mixte hein, que l'Église a produit. À côté de sa prière longue et ardente, là, on voyait apparaître à tout bout de champ une réalisation pratique chez l'abbé de la Mare, une œuvre de bienfaisante. De plus, comme pour Saint-Vincent de Paul, hein, la même chose. C'est une spiritualité contemplative et active. Alors les dévotions maîtresses, si on peut pas appeler ça des dévotions, c'est Dieu d'abord, puis la Sainte Vierge, puis Saint-Antoine. Il y avait une grande préoccupation pour les prêtres, puis les pauvres, et enfin, un grand désir d'ouverture au monde. Un grand désir d'ouverture au monde. À l'époque où l'abbé Elzéar de la Mare, à cette époque-là, on concevait encore la vie d'un bon prêtre souvent, dans bien des cas, hein, comme confiné au presbytère ou à la sacristie. Ça arrivait. On disait aux prêtres que les vertus essentielles de la, ce qu'on appelait la sainte résidence, résider là, puis s'éloigner du monde et rester avec sa barrette sur la tête. La barrette, je dis pour les jeunes, c'est un chapeau noir avec un pompon noir dans le milieu. Et ils portaient ça souvent, puis ils avaient souvent, évidemment, la soutane avec un grand ceinturon, puis des franges. Alors, les prêtres se sentaient souvent comme éloignés. Ils n'étaient pas tous comme ça, hein. Quand on pense au curé Labelle et à quantité d'autres, je me souviens de l'abbé Ambroise Lafortune avec sa soutane qui sautait par-dessus les clôtures, et puis l'abbé Léveline à l'Université de Montréal, qui était aumônier des étudiants avec un dynamisme, avec sa soutane, ça ne le gênait pas. Mais il y avait comme ça des prêtres qui étaient imbus de cette idée un peu monastique, si on pourrait dire, dans leur presbytère, retirés dans leur presbytère à la sacristie. Mais en face de la vie moderne, on sait qu'à cette époque, bien, l'Église a peu à peu modifié ses habitudes pour en venir au Concile Vatican II, qui a donné le coup de grâce à ces thèses un peu trop restrictives et négatives, comme l'écrit le père Laurent Tremblay dans « Au service du royaume », ce livre qui m'inspire pour vous parler de l'abbé Elzéar de Lamar. C'est un très beau livre, je vous le conseille. C'est paru dans une aux éditions qui s'appelle « Rayonnement ». Mais c'est les sœurs Antoniennes de Marie qui ont publié ça à Chicoutimi. Au service du royaume, spiritualité de l'abbé de Lamar, par le père Laurent Tremblay, oblat de Marie Immaculée. Alors, le Concile Vatican II, donc, donne une espèce de coup de grâce à ces thèses restrictives. Il y a des textes sensationnels que vous avez tous lus, j'espère, Gaudium et Spes, qui prêchent l'ouverture au monde, comme au temps des premiers apôtres. Hein. Et 50 années avant ce décret, ben, ce prêtre, Elzéar de Lamar, a pratiqué au royaume du Saguenay cette ouverture au monde, en mettant tellement sa vie au service de tout le monde, que cela devient chez lui une autre caractéristique de sa spiritualité. Le cœur de M. l'abbé de Lamar était, pour ainsi dire, à la dimension du monde. Il n'a battu que pour aimer un vrai prêtre, que pour aider un vrai prêtre, pour servir. C'est ça un vrai prêtre encore? Pour secourir, pour encourager, pour écouter. C'est ça un prêtre. Écoutez ça les jeunes, là. Si vous voulez devenir prêtre, avez-vous déjà vu une vie plus merveilleuse et plus emballante? Aimer, aider, servir, secourir, encourager, écouter, pratiquer toutes les formes de bonté, d'apostolat, de dévouement. En toutes les œuvres de miséricorde corporelle ou spirituelle imaginables. C'est ça, un prêtre. C'est fantastique. Et à l'ermitage du lac Bouchette, dans l'entourage immédiat de M. l'abbé de Lamar, se tient un visiteur assidu qui fait presque partie de la famille, c'est le célèbre peintre canadien-français Huot. C'est un intime à ce point que le biographe de l'abbé de Lamar consacre une vingtaine de pages à décrire la longue et profonde amitié de 25 ans qui a lié étroitement ces deux hommes. Parce que l'abbé de Lamar était un homme cultivé qui aimait les peintres, les écrivains. En parlant de M. Huot, sa nièce Alice Vézina, là, ne manque pas de mentionner, c'est lui qui a peint la voûte du Parlement de Québec. Le grand tableau qui représente l'Assemblée législative. Hein? Et puis, on peut lire aussi, en septembre-octobre 1960, dans un journal du Saguenay, l'abbé a joui jusqu'au fond de l'âme de se sentir aimé d'un tel homme. M. Huot se vit compris et soutenu par l'abbé, qui à partir de 1909 n'a pas cessé de l'encourager. Il s'est dépensé pour lui trouver des acquéreurs pour ses tableaux. Le peintre ne comprenait pas grand-chose au maniement des affaires, alors il a pris l'habitude de suivre les conseils de son ami, de cet homme de Dieu, qui fut aussi un administrateur prudent et avisé. C'est assez étonnant. Alors on se demande pourquoi cette insistance étrange et presque puérile chez un ermite, si austère, si plein de renoncement, pourquoi il fait tout ça? Sans doute la raison d'amitié pour le peintre y est pour quelque chose, mais celle du travail également. Monsieur de Lamar a converti mon père et mon père m'a converti, disait Alice Huot, la fille du peintre. C'est comme ça que des prêtres en arrivent par leur bonté à amener au Christ qu'ils servent des âmes éloignées. Enfin, il révèle les dimensions infinies de son grand cœur d'apôtre en mettant dans la voie d'une âme du purgatoire, c'est ce qu'il écrit ça dans le mois des âmes, il met des paroles dans une âme du purgatoire, des grandes aspirations, de ses propres désirs qui sont tout enflammés. Il n'ose pas les dire comme étant de lui, il les met dans la bouche d'une âme du purgatoire, c'est en trois lignes. Ah, s'il m'était permis de faire arriver ma parole brûlante jusqu'aux extrémités de la terre et de parcourir en missionnaire le monde entier. On connaît Thérèse de l'Enfant Jésus là-dedans. Des accents comme ça, ça se passe de commentaires, il me semble. Le cœur de ce prêtre, Zéard de Lamar, a été sûrement de ceux que l'amour de Dieu puis le salut des hommes ont électrisé. C'est saint Paul qui disait un jour, « Je voudrais être anathème pour mes frères. » Enfermé dans son cloître, sainte Thérèse de Lisieux a été par le désir un des plus grands missionnaires de son temps. Vous le savez, ça. On vous l'a dit sur tous les tons. Vous écoutez les belles émissions, il y en a une ce soir à 7h sur Thérèse l'Enfant Jésus à Radio Ville-Marie. Enfermée dans son cloître, donc, elle est une grande missionnaire, et l'abbé de Lamar a parlé le même langage parce qu'il a vibré des mêmes sentiments. Il a souhaité franchir le seuil de ses humbles capacités, il se prenait pas pour un autre. Il voulait échapper aux liens de son corps, hein. Il y a tout ce qui retient, au fond, les puissances d'action de son âme. Il aurait voulu se multiplier. Il voulait presque jouir du privilège de bilocation, être à deux endroits à la fois pour faire plus. Il voulait s'incarner en même temps dans toutes les œuvres de bien. Il voulait guerroyer sur tous les champs de bataille de l'Église. Il voulait se dépenser au service de toutes les misères humaines, puis répandre partout, comme le soleil, on pourrait dire la lumière vivifiante de la vérité qui sort de la bouche du Christ dans l'Évangile. Il voulait secouer les apathiques. Il voulait raffermir les gens qui hésitent. Il voulait sanctifier les fervents. Ce sont des ambitions surnaturelles sans limite. Et ça, bien, c'est le propre des âmes hautement habitées par l'Esprit Saint. Je vous rappelle que l'abbé Elzéard de Lamar est mort en 1925, à 70 ans, presque 71 ans, prêtre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, fondateur des Antoniennes de Marie, très connu dans cette région.